casa, quando tu dici a loro, io devo fare. Se tu, se tu, se tu, se tu, se tu, se tu, vado dal sonido, alle anche io.
Bonjour et bienvenue à Ceci en parle sur les ondes de la radio Oxygène FM. Ceci en parle donc est une série d'émissions où les volontaires du Centre d'études et de coopération internationale canadien, le CECI, viennent partager leurs connaissances et expériences avec des thématiques axées sur les besoins, les intérêts et les priorités des femmes et des jeunes sénégalais et sénégalaises. Présentation donc du CECI. Le CECI est un organisme canadien de coopération internationale qui combat la pauvreté et l'exclusion par des projets de développement durable en Afrique, en Asie et dans les Amériques depuis 1958. Donc le CECI a contribué à améliorer les conditions de vie de plus de 30 millions de personnes dans une quarantaine de pays établis au Sénégal depuis 1984. CECI Sénégal est une institution incontournable dans la lutte contre la pauvreté, l'exclusion et l'amélioration des droits des femmes et des filles. Au CECI Sénégal, la promotion des droits des femmes et des jeunes filles demeure la priorité pour bâtir un monde d'égalité de droits et de diversité. Aujourd'hui, donc, nous allons parler environnement et tout particulièrement de la gestion des déchets avec notre invitée Aïchatou Samba, volontaire au CECI Sénégal et conseillère en environnement et adaptation au changement climatique au Centre de suivi écologique. Aïcha, bonjour. Ça va, alhamdoulilah. Pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre rôle et de responsabilité au niveau de CECI Sénégal?
Donc, tout d'abord, merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Aïchatou Samba. Madame Gay, donc je suis volontaire au CECI en adaptation au changement climatique et environnement. Donc, je travaille présentement, mon mandat est d'accompagner les ONG, notamment la Professe, donc qui est une ONG de femmes basée à Kaolack, et j'accompagne aussi le ministère de l'Emploi. Donc, dans les emplois verts. Donc, actuellement, mon mandat s'articule autour de ça. Cependant, mon mandat antérieur s'articulait autour de l'accompagnement, comme j'étais expert au Centre de suivi écologique, où j'ai travaillé sur différentes problématiques, essentiellement sur les changements climatiques, l'évaluation environnementale avec la réglementation sénégalaise. Donc, en grosso modo, c'est ça mon mandat pour les 4 prochains mois au CECI.
Et c'est en même temps les responsabilités que le CECI vous a endossées.
Exactement. Donc, pour ce qui est de mon parcours scolaire, je suis géographe de formation. Donc, je me suis très tôt intéressée aux enjeux des changements climatiques et de l'environnement. Donc, je me rappelle à l'époque où je commençais mes études universitaires, l'enjeu était le développement durable. Donc, entre-temps, les paradigmes ont changé. Donc, actuellement, c'est vraiment les changements climatiques qui sont au cœur des préoccupations à l'échelle du globe. Donc, c'est un enjeu global, donc qui nécessite des mesures globales. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis engagée dans les activités du CECI qui correspondaient à vraiment que je pourrais apporter une pierre à l'édifice. Donc, en grosso modo, c'est ça.
Le changement climatique qui touche particulièrement beaucoup de pays comme le Sénégal, où en êtes-vous exactement dans ce combat?
Donc, excusez-moi. Donc, les changements climatiques, c'est un enjeu parce qu'au Sénégal, il faut d'abord noter qu'on a différentes zones écogéographiques. Donc, chaque zone écogéographique fait face à des aléas climatiques différents. Par exemple, sur le littoral, on a la problématique de l'érosion côtière. Donc, dans la zone du Sine Saloum, on a non seulement on a l'érosion, mais on a la remontée de la langue salée. Par contre, quand on va vers le Ferlo, qui est une autre zone écogéographique, les enjeux sont différents. C'est-à-dire que là, on fait face à la désertification, qui nécessite des mesures différentes. Donc, vers le sud, on assiste à un lessivage des sols. Donc, c'est vraiment, les enjeux climatiques sont différents, leurs manifestations sont différentes d'une zone écogéographique à une autre. Mais de façon globale, le constat est là, les scientifiques le constatent, le GIEC en a fait l'a documenté, que les enjeux climatiques, les changements climatiques sont présents, on le vit. Donc, étant donné qu'on est des pays en développement, donc le Sénégal est un pays en développement, et qu'on a une population féminine et des jeunes qui sont vulnérables naturellement, donc ces enjeux vont venir exacerber leur vulnérabilité. C'est la raison pour laquelle il va falloir mettre en place des mesures d'atténuation et d'adaptation. Tout dépendra du domaine d'exercice. Donc, en grosso modo, c'est ça.
On est en banlieue, donc c'est le moment idéal d'évoquer la bande des Filao de Guédiawa qui est menacée aujourd'hui, où on voit des constructions de part et d'autre. Est-ce que vous vous initiez dans ce combat pour mieux impliquer ou bien conscientiser les populations à conserver cette bande de Filao?
Donc cette bande de Filao est très importante pour l'écosystème, dans le sens où que, les racines de ces Filao stabilisent le sol. Si vous pouvez, vous, parce que j'habite sur le littoral, donc si vous vous promenez le long du littoral, on a l'impression qu'on perd de la plage. Donc c'est cette bande de filaou-là qui stabilise, en fait j'explique le phénomène, qui stabilise l'avancée de la mer. Donc c'est la raison pour laquelle les gens doivent être conscients de cet enjeu-là. Parce qu'il y a des constructions qui sont en train d'être faites, il y a une certaine déforestation qui se fait, donc au profit du bois qui est utilisé. Donc, c'est vraiment, vraiment un enjeu qu'il faut prendre très au sérieux. Et ça implique non seulement toute l'échelle, c'est-à-dire du local au niveau central. Donc, tous les acteurs qui évoluent dans ce secteur-là doivent être impliqués. D'où l'approche de la gestion participative qui serait très, très... qui est intéressant et qui, moi, je trouve que ça colle bien avec la société sénégalaise, la façon dont on... Il y a toujours le pencho, le disso.
On en reparlera, mais revenons à notre thématique aujourd'hui qui nous réunit, qui est la gestion des déchets. Pourquoi avez-vous fait le choix de cette thématique qui est la gestion des déchets?
En fait, le choix de ces thématiques, c'est juste deux raisons. Donc, récemment, en allant au travail, j'ai entendu un projet de réhabilitation de la décharge de Mbeubeuss. Donc, je travaille là-dessus quand même un certain moment, sur cette problématique-là de la décharge de Mbeubeuss, la décharge sauvage. Donc, aussi, le constat est là. À Dakar, les déchets jugent de la voie publique. C'est quelque chose que tout le monde voit. J'ai comme l'impression que ça c'est devenu tellement fréquent dans notre paysage que les gens ne s'en rendent pas compte. Donc c'est juste ces deux raisons qui ont motivé en fait ce choix de cette thématique-là. Aussi, on est dans un contexte urbain. Donc on dit concentration de population, on dit générer des déchets. Ce déchet qui est généré là, comment on va le prendre en charge? Comment le circuit de comment on va le recycler, comment on va l'enfouir, tous ces enjeux-là sont très importants. C'est pour ce qui justifie ce choix-là.
Et comment définissez-vous le terme déchet?
En fait, le déchet, on peut définir de très simple. Selon la définition de l'Union européenne, le déchet, c'est toute substance ou sujet, objet dont le détenteur se défait ou dont l'intention ou l'obligation de se défaire. C'est-à-dire que c'est tout objet qu'on n'utilise plus. Donc, en quelque sorte, c'est comme ça que je peux le définir. Donc, on sait qu'au quotidien, si on parle de ce postulat-là, au quotidien, on en utilise pas mal. Donc, on en génère pas mal. Donc, une fois ce déchet généré-là, comment les gens vont s'en occuper? Parce qu'il faut qu'on le prenne en charge. Donc, c'est pour cela qu'on parle de l'ordure, c'est-à-dire l'or. OR, dur, c'est-à-dire s'il y a une économie autour de cette ordure-là, de ce déchet qui est généré.
Et quand on parle de déchets, parfois on fait allusion aux déchets ménagers, les ordures et autres, sans oublier qu'on peut avoir d'autres types de déchets. Une occasion de parler de ces types de déchets. D'abord, combien de déchets existent-ils ici au Sénégal, ou bien les types de déchets que nous avons en quelque sorte?
En fait, ça dépend parce que on a une certaine classification du déchet. Mmh. Donc, on distingue les déchets ménagers. Donc, ça peut être solide comme liquide. Mmh. On distingue les déchets dangereux. Donc, tout ce qui est en rapport avec les électroménagers, donc les piles, les téléphones qui sont défectueux. Donc, on a aussi les déchets médicaux. Donc, il y a les déchets médicaux générés par les hôpitaux. Donc, ensuite, on a les déchets agricoles, les déchets industriels. On a les déchets d'assainissement, donc les boues. On a les déchets de vidange. Donc, vu qu'on est dans un pays où on n'a pas... En fait, le réseau n'est pas vraiment dans tous les ménages. Donc, il y a ces déchets-là. Il y a les déchets des entreprises. Donc, il y a une certaine classification. Donc, selon le contexte, ces déchets-là on peut constater un certain nombre de déchets beaucoup plus visibles que d'autres.
Alors, qu'est-ce qui fait la spécificité de ces déchets?
En fait, la spécificité de ces déchets, ça dépend. Parce que, par exemple, les déchets ménagers, on a les déchets ménagers solides. Donc, ces déchets ménagers, c'est les déchets qui sont générés par les ménages, par les compagnies, par les entreprises. Et aussi, il y a les déchets industriels. Donc, tout dépend du secteur d'activité dans lequel on est. Mais de toute façon, le constat en est que dans chaque secteur d'activité génère des déchets.
Il y a aussi les déchets liquides qui parfois, on peut dire, met en danger les populations parce que ça manque de canal où verser ces eaux jugées-là. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de ces déchets et les dangers qui l'entourent?
Mais dès qu'on parle de déchets, il y a une menace sur la santé humaine. Mmh. Donc, que ça soit liquide ou solide, il y a des impacts. Donc, vu qu'on habite dans une société assez communautaire, donc moi, je dirais que ces déchets-là, solides ou liquides, peuvent générer des problèmes de santé publique, c'est-à-dire que des maladies. Parce que je me rappelle, à un moment donné, on parlait des problèmes de... Les populations jetaient les déchets dans les bassins de rétention, qui généraient des maladies chez les enfants. Parce que les enfants, ils jouent. Donc, que ce soit des déchets solides ou liquides, ça génère des maladies, des problèmes de santé publique, des problèmes au niveau de l'air, de la qualité de l'air. Donc, tous ces enjeux-là, dès qu'on parle de déchets, ça génère une certaine nuisance.
Nuisance à la santé, mais aussi le manque de canal d'évacuation. Parfois, ça pose problème.
Donc là, vous parlez de l'enjeu des infrastructures, c'est-à-dire la mise à disposition d'infrastructures qui vont pouvoir permettre de drainer ces eaux usées. Donc, d'abord, pour l'évacuation des eaux usées, il faut distinguer, il y a les eaux usées et les eaux pluviales. Donc, ce qu'on constate, c'est que ces infrastructures-là doivent être gérées en amont. C'est-à-dire que ce n'est pas des infrastructures que tu installes une fois que les populations sont installées. Donc, tu l'installes lors de la planification de la ville, c'est-à-dire de la ville ou du quartier ou de la cité que vous voulez mettre en place. C'est pour cela que dans le code de l'urbanisme, on parle des services sociaux de base, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec canalisation, électricité, les services d'aqueduc. Là. Donc, en grosso modo, c'est ça.
Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas sans soucier de savoir que les populations s'installent d'abord avant de penser à la mise en place de ces...
Exactement. C'est pour cela que je dis que c'est un travail qui doit être fait en amont. C'est-à-dire qu'avant que les gens ne s'installent, toutes ces infrastructures-là doivent être mises en place. En ce moment-là, une fois que c'est mis en place aussi, dans la planification, il faut prévoir que la population qu'on avait à Dakar en 1960 n'était pas la même qu'en 1980, qu'en 1900, qu'en 2000, qu'en 2021. Donc, la population s'accroît. Il faut que dans la planification, qu'on puisse faire des projections sur une certaine augmentation de la population.
Mais aujourd'hui, on nous parle de déchets électroménagers, de la façon dont certains l'utilisent, surtout quand on est à la décharge de Bobos. Les dangers aussi, est-ce qu'on pourrait les savoir quand il y a le recyclage des ordinateurs, des téléphones portables et autres?
Ok.
Pour ce qui est du recyclage, en fait, moi, je suggère que, à la base, qu'on puisse commencer, toute la chaîne commence à la maison. C'est-à-dire que, qu'il y ait d'abord ce travail de recyclage au niveau des ménages. Ensuite, ces ménages-là, une fois qu'ils collectent leurs déchets, puissent avoir un réseau d'évacuation, c'est-à-dire qu'un endroit où ils peuvent aller déposer leurs déchets. Une fois que le déchet est déposé à l'endroit de collecte, cet endroit de collecte, qu'ils puissent avoir un système d'évacuation de l'endroit de ce système de collecte-là. Parce que si cette chaîne n'est pas respectée, une fois que ces déchets sont collectés, il faut qu'il y ait... Ça dépend du type de déchet. Si ça doit être enfoui, que ça soit enfui. Si ça doit être incinéré, que ça soit incinéré. J'avoue qu'au Sénégal, jusqu'à date, c'est plus l'enfouissement qui est fait. C'est-à-dire qu'on l'enfuit dans un site d'enfouissement. Donc, ce qui serait vraiment le stockage, le compostage, parce que ça, c'est tout ça, c'est des perspectives qu'on pourrait faire pour pouvoir recycler les déchets. Donc, vraiment, c'est vraiment un enjeu très important. Pour ce qui est de la décharge de Mobus, j'ai déjà eu, en fait, je l'ai eu dans les médias. J'ai entendu dire que c'est un projet financé par la Banque mondiale et l'AFD, et qu'ils sont en train de vraiment vouloir moderniser la décharge, parce qu'actuellement, c'est une décharge sauvage. Donc, il y a tout ce qui ça implique, parce qu'il y a la fumée qui est générée, parce qu'ils brûlent les déchets à ciel ouvert. Donc, quand tu survoles Dakar en avion, tu vois, en fait, c'est comme un gros cratère, donc qui constitue un problème au niveau de la nappe phréatique. La nappe est menacée. Non, la nappe est infectée, là. La nappe est infectée. Les eaux souterraines ne sont plus utilisables. Il n'y a pas de tri, il n'y a rien. Certes, il y a un système de collecte à la base, au niveau de la décharge, avec les femmes et les gens qui s'activent autour, mais n'empêche, il faut qu'il y ait un système moderne de gestion de ces déchets-là, de ce site d'enfouissement, parce que c'est tout un autre circuit qui rentre en jeu, parce qu'un site d'enfouissement, il faut d'abord imperméabiliser le sol pour ne pas permettre aux liquides générés par la concentration des déchets avec la chaleur. On vit dans un climat tropical, il fait très chaud à longueur d'année, donc ces déchets-là génèrent des gaz. Donc, il y a des techniques qui sont mises en place actuellement, surtout au niveau rural, de biodigesteurs, c'est-à-dire qu'un système qui permet de condenser ces déchets-là qui vont générer le gaz. Donc, ce gaz-là va être utilisé pour la cuisine, donc pour les systèmes, les méthodes de cuisson, les foyers améliorés. Donc, pour ce qui est aussi, ça, c'est l'aspect vraiment... gestion de la décharge. Mais pour ce qui est en termes d'impact, c'est une décharge sauvage. Donc, tous les déchets arrivent dans cette décharge-là. Ces déchets, parfois, on a les produits électroménagers, les piles, qui génèrent des substances toxiques qui sont dans ces piles-là. À la longue, au fur des années, d'être en contact avec ces substances toxiques-là, ça peut générer des maladies, telles que le cancer. On voit de plus en plus qu'il y a une recrudescence de ces maladies-là. Le cancer, l'hypertension. Certes, l'hypertension n'est pas reliée, mais les maladies reliées à ces... Vraiment, il y a un réel souci de santé publique en ce sens-là.
Tantôt, vous avez parlé des déchets qu'on enfouit. Ça peut aussi constituer ou bien participer à la dégradation de l'environnement ou bien ne donne pas l'opportunité de rendre fertile les sols, surtout dans les lieux où on pratique de l'agriculture et autres.
En fait, c'est ça. C'est pour cela que je parlais de compost. Donc, les composts, c'est vraiment les déchets issus de l'alimentation que l'on enfouit. Et après un certain nombre de temps avec le processus, parce que généralement, par exemple, ici, j'ai vu ça dans les niaïs, là. Les gens, ils utilisent ça avec comment ça s'appelle, le sang d'omoutal. Donc, ils utilisent ça, ils le compostent et ça peut constituer un engrais. Donc, ça, c'est une façon de gérer ces déchets, de réutiliser ces déchets-là. Donc, ça peut être quelque chose de bio, de très, très, très faisable à petite échelle. Parce que c'est actuellement, le problème qui se pose, c'est que chacun essaie de faire à son niveau, ce qui est possible à son niveau. Mais ce qui se passe, c'est qu'au niveau gestion légale, c'est-à-dire que La gestion des déchets est un pouvoir central, c'est-à-dire que c'est le gouvernement qui s'en occupe. Donc actuellement, l'UCG, c'est l'unité de coordination de la gestion des matières des déchets solides. Donc actuellement, la gestion des déchets n'est pas du ressort des collectivités territoriales. Collectivité territoriale, parce qu'on parlait de collectivité locale, mais avec la décentralisation, maintenant on parle de collectivité territoriale. Donc ça ne fait pas partie des 7 domaines de compétences assignés aux collectivités locales. Donc moi je dirais que ce serait très important que la gestion des déchets
revienne.
Ou bien non seulement pas revenir, mais que les collectivités territoriales soient impliquées dans cette gestion-là. Parce que c'est eux autres qui sont en contact avec la base. Donc, pour ce qui est tout ce qui est en rapport avec la sensibilisation, toutes ces actions-là qui pourraient participer à faire comprendre, à faire saisir à la masse critique l'importance de la gestion de ces déchets-là, pourraient être confiées aux collectivités territoriales. Je vois que l'UCG, ils ont des points de collecte, ils font un excellent travail, machallah. Donc, je vois qu'il y a des points de collecte de ces déchets-là un peu partout à Dakar. Et c'est que moi, je trouve que l'initiative est excellente. L'initiative est excellente. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours des améliorations à faire. Et que moi, je pense que ce qui est en train d'être fait est super intéressant et qu'on devrait vraiment l'élargir, voir comment on peut impliquer le plus d'acteurs dans une optique de gestion participative.
Juste like un petit résumé pour nos auditeurs et auditrices de la 103.4 FM. Tu t'en que de wax ni rek yene gi sen émission ceci en parle ci thème rek ñett bu tombal ñent di oxygène. Ceci en parle ay série d'émissions la lo xamanteni volontaire nek ci centre d'études de coopération internationale canadien ñom ñoy ñew fi tok waxtaan ak ñu wéccante ak ñun xalaat ci yene ci ay thématique yo xamanteni ci soxla scan wi lay dox sen gënël way itam sen ka farata ceci nek ab organisation bo xamanteni ci réewum Canada la fekk bax mu nek lekkelo ci nak ngir gëna xex way itam li nga xamanteni modi body conté te diko jaaré ci ay projet yu macc ci walu sukkale bu bax li nga xamanteni rek moy nekkinu askan ci ay dëkk yu melni Afrique Asie ak Amérique fi nak ci Sénégal ci 1958 ba légui sax mën nañu né ñom ñi ngi ligué ci lu gëna ñongal nekkinu ko doomu Adama fi ci Sénégal ceci mi ngi fi tew ci atum à 1984 bo baak légui mi ngi gëna jappalé doomu Adama yi di xex bé di konté ñak ci yenn dëkk yi nekk ci diwanu ka Sénégal gi ñu nekk on va continuer juste pour parler après on va revenir d'ailleurs sur la gestion des déchets après mais juste on va parler des principales destinations des déchets. Parce que vous avez parlé de différents types de déchets.
Effectivement, parce que les différentes destinations, comme je parlais tantôt, ça peut être l'incinérateur. Ou bien c'est que on va brûler les déchets, ou bien on va les méthaniser, donc par un système de biodigesteur, ou bien on va les stocker, on va les entreposer quelque part, ou bien on va les composter. Donc comme j'expliquais par rapport au maraîchage, ce qui est en train d'être fait avec le maraîchage, on peut le valoriser, c'est-à-dire qu'un déchet peut être un intrant dans un autre processus. Un déchet dans un processus peut être un intrant dans un autre processus. Donc, c'est-à-dire, pour être plus clair, c'est-à-dire qu'un déchet que je génère peut être en fait utilisé dans un autre processus comme une matière première. Donc ensuite, il y a le recyclage. Donc moi, je suis plus dans cette dynamique-là de recyclage. C'est-à-dire que un produit qui arrive en fin de vie peut être réutilisé parce que je vois beaucoup de choses que certains artistes font. Donc j'ai déjà eu à voir des initiatives de jeunes qui utilisent le plastique pour en faire des briques. Donc qui peuvent être utilisés dans la construction. Donc les plastiques, moi je me rappelle quand j'étais beaucoup plus jeune, il y avait un monsieur qui passait dans notre quartier qui s'appelle Mathias. Donc ça nous obligeait, en fait, tout ce qui est bouteille en plastique, produit en plastique, on le gardait. Donc il lâchait à 15 francs la bouteille. Donc quand il passe, quand on entend Mathias, tout le monde sort et amène ses bouteilles. Donc c'est une façon de recycler en quelque sorte.
Tantôt vous avez parlé d'incinération. Est-ce la bonne solution?
L'incinération, ça dépend. Parce qu'il y a des incinérateurs qui sont installés dans les villes. Comme par exemple au Japon, on a un incinérateur en pleine ville qui peuvent être, mais ça nécessite une haute technologie. Parce que les incinérations, ça génère de la fumée. On parle de fumée, on parle de gaz carbonique. gaz carbonique qui est très nuisible à l'atmosphère. Donc, c'est un gaz à effet de serre. Donc, c'est très important. Ça nécessite une certaine technologie, les incinérateurs.
Et recyclage, ça nécessite d'abord le tri.
À la base. Je dirais que le tri à la base, c'est-à-dire que ça commence dans les maisons. Qu'on puisse d'abord avoir l'équipement. D'abord, pour commencer le recyclage, il faut avoir l'équipement. C'est-à-dire qu'un bac pour le recyclage, c'est-à-dire tout ce qui est bouteilles, verres, et un autre bac pour les matières issues de l'alimentation, les pots de légumes, les restants des aliments, toutes ces choses-là. Mais il faut d'abord, à la base, qu'on commence à éduquer. Parce que tout est question d'éducation et de sensibilisation. Mmh. Éducation pour les plus jeunes, sensibilisation pour les plus âgés. Mmh. C'est-à-dire qu'ils comprennent en fait l'importance de cet exercice-là à faire à la base.
Mmh. Et ces équipements, est-ce qu'on pourrait en avoir assez pour permettre à la population d'en faire le tri à la base?
C'est juste une question de volonté. Mmh. Moi, je dis que tout est question de volonté. Quand on se donne les moyens de sa politique, on peut y arriver. Mmh. C'est-à-dire qu'on s'équipe. Mais d'abord et avant tout, toute initiative, il faut que les gens y adhèrent. Mmh. Parce que sans ça, que les gens comprennent en fait ce pourquoi on fait telle chose. Parce que sans ça, peu importe la meilleure volonté que tu aies, ou bien tous les moyens que tu as à ta disposition pour pouvoir faire face à cet enjeu-là, on court droit vers le mur. Parce qu'il faut, à la base, c'est un travail qu'on doit faire avec les populations. Ça prendra le temps que ça prendra. C'est pour cela que je dis que c'est une question d'éducation pour les jeunes, mm-hmm. pour les plus jeunes, parce qu'ils sont en âge de comprendre. Mais pour les plus vieux, qui sont généralement beaucoup plus récalcitrants par rapport à certaines initiatives, mm-hmm. il faut une certaine sensibilisation.
Donc, ça nécessite une conscientisation, une prise de conscience d'abord des populations.
Exactement. Il faut que les gens puissent comprendre le pourquoi. On ne le fait pas pour le faire. Mm-hmm. On le fait pour une bonne raison.
Mm-hmm. Au-delà ou bien à côté des déchets, là, on va parler de la région de Dakar mm-hmm. où il y a des stratégies mises en place pour la gestion des déchets. Quelles sont ces stratégies?
Non, les stratégies, comme je disais, il y a l'initiative qui avait l'unité de coordination des gestions des déchets solides. Ça, c'est pour les déchets solides, mais les déchets liquides aussi, on voit qu'il y a un grand programme mis en place par l'ONAS, parce que c'est les deux entités, donc il y a l'UCG et l'ONAS. Mmh. Donc l'UCG, les points de collecte, moi je trouve que c'est une excellente initiative, comme j'ai dit antérieurement, et qu'au niveau de l'ONAS, donc vu qu'on n'a pas un réseau d'assainissement qui est accessible à tout le monde, on a les plus perdus qu'on a dans la banlieue, on est dans les zones où il n'y a pas ce réseau-là, donc pour pouvoir connecter les populations à ça. Donc il y a des initiatives qui permettent de gérer ces eaux et déchets qui sont mises en place.
Tantôt, vous avez parlé de tri à la base, donc ces stratégies, est-ce que ça implique directement les populations?
Ces stratégies, c'est plus au niveau au niveau décisionnel. Donc, c'est vraiment des structures qui sont mises en place et qui sont dédiées essentiellement à ça. Mais n'empêche, il faut une certaine communication et une certaine vulgarisation de ces structures-là. Parce que parfois, ce qui se passe, ils font de super bonnes choses, mais ils sont inconnus du public. Mm-hmm. Donc, il faut que vraiment qu'on fasse du marquage à la culotte, si je peux utiliser ce terme-là, mm-hmm. pour que les gens puissent d'abord savoir ce que ces structures font, mm-hmm. comment ils peuvent les accompagner.
Mm-hmm. Et maintenant, à votre niveau, que comptez-vous faire pour une implication davantage des ménages à participer à la lutte contre la dégradation de l'environnement, à trier les déchets à la base? Ceci a prévu quelque chose pour mieux mettre au devant de la scène les populations qui parfois utilisent ces déchets ou bien jettent ces déchets dans les rues?
Ok. En fait, au niveau du ceci, moi je dirais que actuellement, à ma connaissance, si je ne me trompe pas, c'est que la plupart des activités, j'ai entendu dire le projet Supermalite. Mm-hmm. Il y avait un projet Supermalite. Je n'ai pas encore pris connaissance de ce projet, par contre. Mm-hmm. J'en ai juste entendu mm-hmm. parler. Mais ce qui peut être fait, moi je dirais que pour ce qui est de la vulgarisation, mm-hmm. donc on est face à une situation. Donc, on est en train de faire du direct là, sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux constituent actuellement une manne d'informations et un canal qui est hyper méga utilisé par les gens. Moi, je dirais qu'il faut une vaste campagne. Ce n'est pas une campagne juste pour les villes, mais une campagne à l'échelle du territoire. Que les gens puissent être informés pour qu'ils puissent prendre connaissance de cet enjeu-là.
Un de nos auditeurs a posé une question via le direct qu'on fait. Et lui, il demande quelle solution pour les déchets plastiques?
Les déchets plastiques, je me rappelle qu'il y a une initiative qui avait été menée par la direction du financement vert et du partenariat en rapport avec comment ça s'appelle? Avec les emplois verts. Donc, ils avaient initié un projet de kiosque de plastique. Donc, c'est des kiosques qui permettent en fait à toute personne qui habite dans une localité qui génère du plastique chez lui, il peut aller le déposer dans ces kiosques-là. Et ces kiosques-là collectent en fait l'ensemble de ces déchets-là pour pouvoir en fait l'utiliser comme intrant dans un autre processus. Parce que je vous parlais tantôt de monsieur qui est basé à, je pense, à Djourbel, qui fait des briques en plastique. Donc, il y avait cette initiative qui avait été faite. Mais le plastique, actuellement, dans la plupart des pays, le plastique est banni. Parce que la durée de vie du plastique est beaucoup trop longue et qu'on risque de se retrouver à être étouffé par ces plastiques-là. Mais le plastique, à la base, la réutilisation est bien, mais l'éviter encore, c'est encore mieux. Et je vois, j'avoue que c'est vraiment de super bonnes idées. Donc, la plupart des entreprises qui tendent vers le RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, j'ai vu qu'en fait, qu'il y a beaucoup de les grandes surfaces qui ont banni, en fait. Maintenant, il n'y a plus de sachets en plastique. Donc, c'est des chemises cartonnées. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment bien. Mais le plastique, si on peut le bannir, certes, eux autres, au niveau des grandes surfaces, ils sont en train de le bannir. Mais au niveau, il faut vraiment que les gens comprennent que les sachets en plastique polluent l'environnement. C'est des pollueurs. Et qu'à la longue, si on continue à ce rythme-là, on risque de se voir submerger par les déchets, par les déchets en plastique.
Mais on se souvient aussi, il y avait une loi interdisant l'utilisation des déchets plastiques. Mais jusqu'à présent, c'est rangé. On dirait même que c'est rangé dans les tiroirs.
En tout cas, je dis que tout a été légiféré. Mais ce qui se passe, c'est la rigueur dans la mise en œuvre, c'est-à-dire dans l'application. Donc, il faut, certes, les lois sont là, mais dans le pratico-pratique, ils ne sont pas appliqués. Les gens continuent à utiliser ce plastique-là. Donc, mais dans la plupart des pays développés, ils ont banni le plastique. Le plastique n'existe plus. Le plastique qu'on utilise, comme nous on l'utilise, ça n'existe plus. On a maintenant des sacs de recyclage, on a des sacs en carton, on a des sacs, même tout ce qui est en rapport, maintenant on utilise un sac que tu utilises à vie. Un sac en soi, c'est en tissu, quand c'est sale, tu le laves et tu le réutilises.
Donc l'application de la loi serait une bonne solution pour tout faire à face à cela.
Oui, mais la loi en fait, c'est bien d'avoir les lois pour légiférer, mais c'est beaucoup plus intéressant dans la mise en œuvre.
D'après tout ce qu'on en dit, quelle doit être la problématique majeure liée à la gestion de ces déchets?
La problématique majeure, dans quel sens? Dans quel sens? Dans la gestion?
La gestion, le tri, l'implication de la communauté?
Actuellement, moi je dirais qu'il faut, pour régler cette problématique de gestion des déchets, d'abord, il faut que les gens soient sensibiliser et surtout éduquer. Parce que moi, je trouve que parfois, c'est que les gens font du « je m'en fous ». Donc, ensuite, il faut qu'il y ait les infrastructures, c'est-à-dire que des bennes à ordures. Parce que parfois, les gens veulent ne pas jeter les ordures par terre, mais ils ne trouvent pas de poubelle. Donc, que des infrastructures soient mises en place pour ce qui, en fait, en termes de proximité. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de faire 300 mètres pour aller jeter un déchet. Donc, qu'il y ait au moins aux 50 mètres ou aux 100 mètres une benne à ordures où les gens peuvent mettre des déchets. Donc, dans un cadre beaucoup plus large, c'est qu'il faut que d'abord qu'on se dote d'une politique de gestion des déchets. Je ne suis pas au courant si au Sénégal il y en a. Mais il faut qu'on mette en place des infrastructures de gestion des déchets modernes. L'UCG fait un excellent travail, mais pour ce qui est de la décharge, on fait le site d'enfouissement, parce qu'on parle de plus en plus de sites d'enfouissement techniques, qui sont des sites modernes où on peut enfouir les déchets sans pour autant qu'il y ait un risque pour l'environnement d'abord et pour la santé humaine après.
Mais il existe sûrement des structures responsables de la gestion des déchets. Quelles sont-elles?
Là, il y a l'UCG. Il y a l'UCG.
Et au-delà de l'UCG.
En tout cas, moi, à ma connaissance, je ne connais que l'UCG. Il y a des initiatives qui sont faites. Parce que je me rappelle, il y a des centres de recherche. Par exemple, il y a l'IAGU. C'est l'Institut africain de gestion urbaine qui faisait des études très poussées au niveau de la décharge de Mbobos pour voir les stratégies à mettre en place pour pouvoir le normaliser.
Et maintenant, quel doit être le message à l'endroit des communautés pour s'approprier de la gestion des déchets?
Moi, je dirais qu'il faut d'abord, il y a un travail qui doit se faire à la base. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont... Moi, je dirais qu'on a beau essayer de les sensibiliser, ça ne passe pas. Moi, ce que je dis, je suis vraiment pour qu'on commence la sensibilisation chez nos enfants. Parce que nous... On a pris le train en marche. Mais qu'on commence à la base, au niveau de l'éducation de nos enfants. Qu'on fasse comprendre à nos enfants qu'un déchet n'est pas fait pour être jeté dans la voie publique ou à l'intérieur des maisons. Le déchet doit être dans sa benne à ordures, d'abord, la première stratégie. La deuxième, c'est qu'il faut qu'on ait en fait les infrastructures nécessaires pour ça, de la gestion. D'abord, qu'on réfléchisse à un plan national de gestion des ordures. Les gens parlent d'ordures, mais c'est une économie autour de ces déchets-là. Il y a toute une économie, donc il va falloir qu'on réorganise toute cette économie-là.
Est-ce que cela ne nécessite pas d'abord une formation pour savoir comment trier les différents types de déchets écologiques?
C'est pour cela que je parle de la vulgarisation. La vulgarisation est très importante parce que ça va permettre aux gens de comprendre d'abord c'est quoi le déchet, d'abord définir le déchet. C'est ensuite comment le recycler en fonction du déchet qu'on a, comment le faire. Donc ça, c'est très important que les gens comprennent en fait cette notion-là avant de pouvoir commencer quoi que ce soit.
Mais aussi, pour combattre ceci, est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'impliquer ou bien inviter les collectivités territoriales à s'impliquer davantage dans la gestion des déchets?
Oui, c'est pour cela que je parle en fait qu'il ne faut pas qu'on le prenne, cette problématique-là, il ne faut pas le prendre comme c'est du ressort du pouvoir central. Non, veut pas, les collectivités territoriales sont en contact à la base. Ils ont leur mot à dire dans ces problématiques-là. Donc, il faut vraiment qu'on travaille en synergie. C'est-à-dire aussi bien le pouvoir central que les collectivités locales travaillent en synergie pour délivrer un service public adéquat.
Mais aussi, il y a chez nous au Sénégal, les Badianegor et autres, les OCB, est-ce que vous les impliquez dans ce projet?
Mais c'est ça que je disais en fait, la vulgarisation. On a déjà un réseau communautaire qui est à la base. Donc, ça ne devrait pas être compliqué qu'on puisse en fait, toujours dans ces approches participatives, d'impliquer aussi bien les Badianegor, les chefs de quartier. Donc, il y a toujours des éléments catalyseurs dans les quartiers qui peuvent être des portes d'entrée pour pouvoir dérouler notre plan d'action.
Et le message en général, ça doit être quoi? La solution idéale pour faire face à ces déchets-là?
Non, on veut un environnement, on veut une certaine qualité de vie dans nos villes. Donc ça ne devrait pas être compliqué parce que tout un chacun veut un certain confort dans son cadre de vie. Donc on devrait faire comprendre à ces gens que ce qu'on est en train de faire est pour le bien de cette population. Je me rappelle que j'ai vu sur Facebook, en fait, avec les... Je pense que ça s'appelle Ola. Il y avait je pense que c'est à Gijawai ou à Pikin. Il y avait des jeunes. En fait, ils avaient vu que le cadre de leur quartier n'était pas si bien. Ils se sont mobilisés. Ils ont acheté des peintures. Ils ont acheté du sable. Ils ont vraiment refait le quartier. Ils ont même recyclé des pneus qu'ils ont mis comme des chaises où les gens peuvent... Tout à coup, le cadre de vie a complètement changé. Et on se rend compte à travers ces initiatives-là qu'en fait, il faut juste de la volonté. La volonté, il faut juste une certaine volonté des populations pour améliorer leur cadre de vie. Donc, c'est ça.
Et pour ce qui est de la décharge de Mobos, parce que jusqu'à présent, on voit les fumées de part et d'autre.
Non, mais
et le projet tarde à être réalisé.
Mais j'ai eu écho dans les médias, parce que je l'ai entendu. C'est ce qui m'a vraiment qui a créé le déclic, en fait, sur la thématique que je devais aborder. Donc, j'ai entendu qu'il y avait un financement qui avait été fait par la Banque mondiale et l'Agence française de développement en rapport avec la normalisation de la décharge de Mobus. Par contre, je ne sais pas ce qui va être fait sur la décharge.
Mais aujourd'hui, est-ce que cela ne pourrait pas constituer un véritable problème vu qu'ici au Sénégal, la plupart d'entre nous n'ont pas la culture de mettre en bien leurs ordures et autres. Parfois, il y a différents produits qu'on mélange le reste des aliments, les chassés plastiques et autres. Comment comptez-vous procéder en ce sens pour changer cette méthode de faire ensemble, de mettre ensemble le reste des aliments, les déchets plastiques et autres?
Non, mais c'est ça. C'est la vulgarisation. Montrer aux gens comment faire. C'est-à-dire qu'ils font, peut-être qu'ils le font par ignorance, mais leur montrer comment faire par des exemples pratiques.
Je demande où en est le CCI actuellement. Est-ce que vous comptez aller vers ces ménages pour leur expliquer davantage, au-delà des émissions radio et autres? Est-ce qu'il est prévu d'aller à la base vers les ménages pour leur expliquer davantage? Parce que la plupart d'entre nous, les mères de famille ou autres, sont à ces moments-là, elles sont occupées par commerce, des tontines et autres. Est-ce que vous comptez aller vers ces ménages?
En fait, au niveau du CECI, donc on n'a pas encore mandat pour faire ce travail-là. Par contre, on a participé au projet Superbalite qui avait été déroulé, mis en œuvre. Donc, pour ce qui est de cet aspect-là, à ma connaissance, je ne pense pas que les CECI puissent intervenir dans ce sens. Certes, on peut mettre en place des projets, on peut appuyer des projets ou des initiatives, mais on ne peut pas aller plus loin que ça.
Donc, en résumé, on peut dire qu'il y a tout de même beaucoup d'efforts de sensibilisation à faire dans la communauté, puisque les déchets sont encore loin d'être vus par la population en général comme des ressources créatrices de valeur.
En fait, c'est ça. Parce qu'en fait, les gens, l'approche qu'ils ont du... Parce que quand on parle de balite, quand on le dit en français, peut-être que ça a une certaine connotation. Parce que tu entends ordure, tu peux dire ordure. Mais quand tu dis balite, c'est comme dans la conscience collective, c'est comme si quelque chose en fait qui te sert à rien. Balite, donc c'est quelque chose qui te sert à rien. Alors que ce qui peut être... quelque chose qui peut ne pas te servir à grand chose peut servir d'intrant pour un autre processus. Par exemple, le plastique qui arrive en fin de vie au niveau à notre niveau peut être réutilisé comme un intrant dans le processus de fabrication des briques en plastique.
Donc, en quelque sorte, c'est banalisé.
En fait, c'est banalisé. En fait, dans la conscience collective, quand tu dis malite, c'est comme, en fait, ça te dit que c'est quelque chose pour ramener à Moulben Yari. En fait, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans notre conscience collective.
Donc, aujourd'hui, ceci, Sénégal accorde une importance particulière à l'environnement par la promotion de bonnes pratiques d'améliorer et de conservation de la fertilité des sols, des projets qui visent à des emplois grâce à la valorisation de ces déchets et à conscientiser la population à considérer ce domaine comme une opportunité d'emploi vert.
Tout à fait. Parce qu'il y a une initiative qui est en train d'être faite par la direction de l'emploi à Diamniadio, donc sur lesquelles je travaille. Actuellement, je suis en train de faire une cartographie de toutes les initiatives en rapport avec les emplois verts. Donc, on se rend compte qu'en fait, que cette collecte, cette incinération, juste la décharge de Mobus, tu vois les trieuses qui sont là-bas? Ça génère de l'argent. Il y a de l'économie autour de ça. Les gens n'ont pas encore conscience que ce système de gestion des déchets peut être une source d'emploi. Parce qu'on parle de plus en plus d'emploi des jeunes. Le chômage. On dit que le chômage est élevé chez les jeunes. Mais il y a des opportunités qu'il faut saisir au volet pour pouvoir, en fait, non seulement faire du bien à notre cadre de vie, mais aussi se générer que ça soit une source de ressources, de retombées économiques pour ces populations-là, surtout les femmes et les jeunes.
On voit aussi que parfois, on jette des ordures au bord des mers. Que dites-vous en ce sens? Et ou bien quel est le message que vous allez adresser à ceux qui le font?
Non, mais le déchet n'est pas fait pour être jeté en mer. Parce que si tu le constates, tout ce que tu jettes dans la mer, il te le retourne. Donc, ça, c'est en train de polluer nos plages, parce que c'est une problématique très, très, très importante qui est en train de polluer nos plages. Mais je pense que les secteurs où j'avais vu ça, depuis un certain nombre d'années, il y a eu un travail. Les endroits où il y avait ces déchets-là ont été transformés en des endroits de villégiature, c'est-à-dire que des plages où les gens peuvent venir s'installer, il y a des cabanes, c'est bien aménagé. Mais c'est un enjeu important. C'est quelque chose qu'on voit. On vit avec. Mais les déchets ne sont pas faits pour être jetés à la mer. Parce que ça crée un autre problème. Parce que la faune aquatique et la faune terrestre n'ont pas ne réagissent pas de la même façon. Parce que récemment, j'ai vu un reportage de Greenpeace qui parlait de la pollution marine avec des déchets en plastique et qu'il y a une corrélation entre la diminution de la population de tortues marins et la pollution générée dans les océans.
En tout cas, merci beaucoup Aïcha Abba. Juste un mot pour conclure.
Moi, je dirais que actuellement, il faut les déchets, la gestion des déchets doit être vue comme une optique pour générer des emplois verts. Moi, c'est plus dans ce sens-là. Au-delà des emplois verts, l'aspect économique, je suis environnementaliste, je fais un plaidoyer. En faveur de la protection de l'environnement. On est non seulement dans des pays en développement, avec une population jeune, avec des ressources limitées, et une population femmes et jeunes filles relativement vulnérables. On se doit de protéger notre environnement parce que les changements climatiques, ce n'est pas un enjeu pour dire que non, ça ne touche que les autres. C'est un enjeu global. Donc, enjeu global nécessite des mesures globales. Donc, c'est la raison pour laquelle il serait très important que les décideurs puissent pouvoir s'asseoir pour qu'on puisse trouver des réponses globales. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on se dise que non, le problème du Sénégal, c'est le problème du Sénégal. Les problèmes de la Côte d'Ivoire, c'est les problèmes de la Côte d'Ivoire. Dans la sous-région, il y a des initiatives qui se font au niveau par rapport à la problématique de l'érosion côtière. Donc moi, je veux vraiment qu'on ait cette vision-là et cette optique-là de gérer nos problèmes de façon globale.
En tout cas, c'est important et c'est intéressant d'avoir un esprit sain dans un corps sain, mais aussi dans un environnement sain. Merci beaucoup Aïcha pour votre participation. Quant aux auditeurs, je vous donne rendez-vous pour notre prochaine émission de Ceci en parle qui sera diffusée le mardi 2 août prochain, alors que Ceci Sénégal partagera les ondes avec leurs collègues du Ceci au Burkina Faso. Merci à Diatéria qui a assuré la technique, à Mati Gueye également côté direct. Maïfaye à la présentation, tout de suite l'édition en Wolof. Merci aussi à Denise pour les belles photos.